C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Pourra-t-on un jour se passer des énergies fossiles? Encore faudrait-il cesser de les financer? C'est le combat mené contre plusieurs banques par l'ONG Les Amis de la Terre, dont nous recevons aujourd'hui l'une des chargées de campagne, Lucie Pinson. Alors faut-il combattre la finance pour sauver le climat quand on sait que charbon, gaz et pétrole sont la première cause du réchauffement climatique et représentent 80% des émissions mondiales de CO2? Comment convaincre les banques de ne plus investir dans ces projet pourrait-elle un jour flancher ou bien est-ce David contre Goliath?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Lucie Pinson.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'à nous partager vos combats et puis votre connaissance du financement des énergies fossiles. Nous l'avons entendu en première partie de cette émission, Donald Trump inquiète sur de nombreux sujets évidemment, mais notamment pour sa politique climato-sceptique. On dit même de lui qu'il est un président anti-écologie. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation actuelle des États-Unis ?
Alors en effet, Donald Trump pourrait annoncer très rapidement, après la tenue du G7, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Donc ce serait très inquiétant puisque ça enverrait un énorme signal au monde entier. Mais même en fait, les États-Unis ne sortent pas de l'accord de Paris, déjà l'administration Trump est en train de démanteler énormément de règles en matière d'environnement ou de climat. Ils sont en train de revenir sur le Clean Power Act, qui est le principal outil qui a été mis en place pour appliquer l'accord de Paris. L'administration est également aussi en train d'ouvrir des terres fédérales, des terres protégées, que ce soit onshore ou offshore, à les industries pétrolières et gazières. Tout ça, c'est fortement inquiétant. Le premier émetteur au monde est en train de revenir en arrière. Donc, si ça se passe et si ça se maintient dans cette direction-là, il est très clair que nous ne pourrons pas limiter la hausse du réchauffement de la planète en dessous de 1,5 degré.
Et l'Agence de protection de l'environnement américaine pourrait voir son budget raboté d'un tiers. Ça concerne 2,6 milliards de dollars. 50 programmes lancés par cette agence pourraient être terminés. Évidemment aussi, Donald Trump a décidé d'en finir avec le financement fédéral de la recherche pour lutter contre le réchauffement climatique.
Alors oui, en effet, il y a des coupes budgétaires, mais alors vous parlez de l'Agence de protection de l'environnement. Il faut déjà regarder les personnes qui ont été nommées à la tête de toutes les agences en matière énergétique et environnementale. À l'Agence de protection de l'environnement, on a un des plus gros climato-sceptiques des États-Unis, un monsieur dénommé donc Scott Pruitt, qui, dans le passé, lui, a combattu une à une toutes les réglementations mises en place et adoptées par l'Agence de protection de l'environnement. Donc son passé n'est pas de renforcer le rôle de cette agence, mais au contraire de l'attaquer de manière systématique. Encore la semaine dernière, deux personnes ont été nommées en tête de la FERC, la Commission fédérale de régulation de l'énergie au niveau des États-Unis, dont deux personnes, pareil, avec un passé pro-fossile, connectées aux entreprises pétrolières et gazières. Et l'un d'entre eux s'est déjà illustré en nommant les personnes mobilisées contre les pipelines aux États-Unis, les pipelines d'énergie fossile, comme étant des djihadistes. Donc ça en dit long sur le positionnement anti-climat de l'administration Trump et également sur le peu d'égards qu'ils auront aux personnes mobilisées pour lutter contre les grands projets d'énergie fossile relancé ou soutenu par l'administration aux États-Unis. Et notamment, on a l'exemple du Dakota Access Pipeline. On est extrêmement inquiet de la situation en matière de respect des droits humains.
Et l'administration Trump a annoncé qu'elle allait embrasser la révolution du pétrole et du gaz de schiste pour créer des emplois et apporter de la prospérité à des millions d'Américains. Le ton est donné, peut-être rien qu'avec cette annonce-là.
Tout à fait. Alors, Trump fait miroiter la relance de l'économie américaine, un nombre d'emplois considérables dans ces industries, alors que l'on sait qu'il y a beaucoup plus d'emplois aujourd'hui, des emplois locaux qui ne sont pas délocalisables dans les énergies renouvelables. Et notamment, donc, Trump laisse miroiter cette promesse de l'emploi pour tout ce qui est exportation du gaz naturel liquéfié, avec on a plusieurs dizaines de projets de terminaux terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié prévus sur le sol américain. Or, on sait que ces projets-là, ce n'est par terminal pas plus d'une centaine d'emplois permanents.
Et combien de projets d'énergie fossile sont relancés ou lancés par l'administration Trump ?
Alors, c'est difficile d'avoir un nombre exact.
On a quelques projets qui sont médiatiques.
Cependant,
en fait.
On a quelques projets qui sont médiatiques. Donc, on a parlé du Dakota Access Pipeline qui a été relancé donc dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier. Au même moment, l'administration donc a relancé le fameux Keystone XL,
cet oléoduc
de sable bitumineux. Et donc, il y a d'autres projets aujourd'hui qui sont en cours de développement, notamment trois autres projets similaires au Keystone XL, donc qui ont pour but également de transporter des sables bitumineux du Canada vers les États-Unis. Et on est également très inquiet de voir le développement de terminaux d'exportation de gaz de schiste qui jouent un rôle clé, en fait, dans l'augmentation de la production de gaz de schiste aux États-Unis.
Et vous avez fait justement venir à Paris plusieurs représentants amérindiens pour qu'ils puissent assister aux assemblées générales de quelques grandes banques françaises cette semaine, avec une demande que ces banques se désengagent des projets d'énergie fossile dans lesquels elles investissent au nom de la défense de l'environnement et des droits des peuples autochtones. L'entreprise américaine NextDecade vient d'annoncer que la banque française Société Générale devrait la conseiller pour son projet de terminal d'exploitation de gaz de schiste Rio Grande LNG situé dans le Texas du Sud. Cerise Maréchaux a rencontré à Paris Juan Mancias, président du conseil tribal de la tribu Carrizo-Comecrudo, une tribu qui représente près de 4000 personnes au Texas et membre également du mouvement amérindien du Centre Texas.
Ce qui m'inquiète avec le projet LNG, c'est que les gens de ces terres ne sont pas consultés. De nombreux restes ont été trouvés dans ce coin. Et ce sont nos proches, nos parents, nos ancêtres. S'ils approuvent les trois terminaux de gaz de schiste, ils vont déterrer ces tombes, exhumer ces corps et les mettre ailleurs, poursuivant ainsi le nettoyage ethnique qui a lieu au Texas depuis longtemps, où ils ont toujours voulu éliminer les Amérindiens.
Vous avez des ancêtres enterrés sur les lieux du chantier potentiel de LNG, de ce projet d'extraction et d'exploitation de gaz de schiste.
Oui, et c'est le cas partout, pas seulement dans cette zone. Ça a été la même chose à Eagle Pass avec la mine de charbon là-bas.
Une mine de charbon à Eagle Pass, un peu plus à l'ouest de Brownsville et du projet LNG.
Et aussi à Two Rivers, où est construit l'oléoduc Trans-Pecos. On a des preuves de sites funéraires tout le long du fleuve Rio Grande. Mon peuple et mes ancêtres ne peuvent pas reposer en paix. Tous les autres reposent en paix. Les cimetières et les sites funéraires des Blancs, eux, sont protégés. Les nôtres ne le sont pas, comme si on n'existait pas. Et à chaque fois que de tels projets ont lieu, sans qu'on soit consulté, ils nous tuent. Ils nous tuent encore et encore. Nous revendiquons des régulations et des politiques plus strictes, afin que les tribus non reconnues au niveau fédéral, mais qui pourtant sont natives d'ici, qui étaient là avant même l'arrivée de Christophe Colomb, puissent au moins être consultés en amont de ces projets de gaz, de pétrole. Les gens doivent comprendre que le Texas concentre le plus grand nombre d'oléoducs et de gazoducs de tout le pays. C'est pour ça que les peuples originels du Texas ne sont pas reconnus par l'État fédéral, ni l'État du Texas. Parce que si c'était le cas, nous aurions le contrôle sur les ressources en minerais et les droits de propriété au Texas. Tout ça, c'est pour s'approprier les ressources.
Quelles sont vos craintes pour l'environnement de la région, si ce projet d'exploitation de gaz de schiste a lieu?
C'est prouvé que la fragmentation hydraulique pollue les ressources en eau, même si personne n'en parle au Texas. Moi, je vis dans le comté de Wilson, et ça fait partie de la formation rocheuse Eagle Ford Shale. Quand ils ont commencé à extraire du gaz de schiste dans cette région il y a 5 ans, ça a pollué l'eau sur ma propriété à des dizaines de kilomètres. Depuis 3 ans, on souffre de nombreuses allergies. À Carrizo Springs, tous les 3-4 mois, ils font bouillir leurs réserves d'eau. Ils sont au milieu de la zone de fragmentation hydraulique. Chez moi, si je pose un verre d'eau et le laisse là pendant 2 jours, je vois une sorte de filament visqueux et noir qui se forme à l'intérieur, un peu comme du gel. Et ça, après que l'eau ait été filtrée. C'est ça les vrais effets de la fragmentation hydraulique. Il y en a que pour l'argent rapide, parce que le gaz de schiste, c'est temporaire. Ils disent qu'ils vont créer plein de boulots dans la région. Oui, mais pour seulement 1 an et demi. Ce ne sont pas des emplois durables.
Et aujourd'hui, Juan Mancias, donc vous êtes venu en France, à Paris, pour rencontrer les banques françaises qui soutiennent un tel projet de gaz de schiste, LNG, au sud du Texas. Mais concrètement, comment convaincre des grandes banques françaises comme la Société Générale ou BNP Paribas d'arrêter de soutenir et de financer des grands projets d'énergie fossile dans le monde ou en tout cas aux États-Unis ?
We are asking people to divest and to take their money out.
Nous demandons aux gens de retirer leur argent de ces banques et de le placer dans des coopératives de crédit. Les gens doivent être conscients de où ils placent leur argent, comment il est investi, savoir s'ils financent des projets de nettoyage ethnique, d'atteinte aux droits de l'homme. Il doit se développer un système bancaire alternatif, plus respectueux des communautés. Les banques aux États-Unis et aussi les banques ici, comme la Société Générale, ces institutions financières majeures qui ne prêtent pas attention aux violations des droits de l'homme en cours, aux atteintes à la nature et à l'eau, oui, nous allons les faire payer. Retirez votre argent de ces banques. Les gens doivent venir et voir de leurs yeux ce qui se passe. Ces banques aussi, elles doivent arrêter de prendre des décisions depuis l'étranger sur ce qui se passe là-bas. On est déjà passé par là, ce conflit entre Nouveau Monde et Vieux Monde. Eux, ils ne font que prendre, sans rien donner en retour. Il faut comprendre que cette Terre est un véhicule, comme un vaisseau spatial pour nous tous. Cette connexion, c'est qui nous sommes. Je suis cette Terre. Cette Terre, c'est moi. Nous devons nous reconnecter avec notre humanité. L'argent n'est pas tout.
We live on an industrial reservation. We are the Halusa nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant. We have been called many names.
Témoignage recueilli à Paris par Cerise Maréchaux. Comment réagissez-vous à l'écoute de cet appel à la révolte, Lucie Pinson ?
Tout d'abord, peut-être rappeler que Juan Mancias a rappelé le rôle, enfin a mentionné Société Générale en particulier, une banque qui est en effet impliquée dans un des 3 projets de terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié, donc issu des gaz de schiste, qui serait construit au port de Brownsville, donc tout près de la frontière mexicaine. Mais qu'il y a d'autres banques françaises qui sont également impliquées dans ces 3 projets-là, et notamment BNP Paribas, qui est également impliqué donc dans un autre projet, le projet Texas LNG, qui est un projet similaire de terminal d'exportation de gaz de schiste. Ces banques, peut-être dire aussi qu'elles jouent un rôle clé. Ce n'est pas un financement, c'est vraiment les banques qui sont en charge de monter le projet et de faire en sorte qu'ils tiennent la route et de trouver les financements pour qu'ils puissent avoir lieu.
On parle de quel montant là, pour ce type de projet ?
On parle de... je n'ai pas de chiffres sur Rio Grande LNG. Il n'y a pas eu de communication publique. Cependant, Texas LNG, pour donner un ordre d'idée, c'est 2 milliards de dollars. Rio Grande LNG, donc le projet qui est soutenu par Société Générale, il est 7 fois plus gros. Et il comprend, au niveau juste du terminal d'exportation, et il comprend aussi la construction d'un pipeline, Rio Bravo LNG, qui acheminera du coup le gaz de schiste de 2 bassins de schiste au terminal. Donc là, on parle d'un projet qui coûte, à mon avis, plus de 10 milliards de dollars. Et donc, une fois qu'on a entendu ça, peut-être revenir sur certains points que Juan a mentionnés, et notamment le fait que ces populations sont peuples, comme les populations autochtones aux États-Unis, qui sont pourtant en première ligne de tous ces grands projets d'énergie fossile, notamment des pipelines, ne sont jamais consultées.
Parce que souvent leurs réserves en fait sont traversées.
Les réserves, et en fait, c'est au-delà des réserves, parce que par exemple la tribu de Rouen, elle n'est pas reconnue par les autorités américaines. Aux États-Unis, on a plus de 500 tribus amérindiennes, que la moitié seulement sont reconnues par l'administration. Donc c'est pas seulement les réserves, c'est vraiment beaucoup de territoires qui sont traversés par des pipelines qui sont partout. Là, on se trouve au Texas, donc l'État qui a le plus de pipelines dans tous les États-Unis. Et donc, sur cette consultation, on a rencontré la semaine dernière les banques françaises, puisque Rouen, avec d'autres défenseurs amérindiens, sont en France pour rencontrer les banques et les appeler à renoncer à ces grands projets-là. Et donc, on a rencontré Société Générale qui nous a demandé est-ce que Rouen avait été consulté. Et en répondant après, bon, vous n'avez pas encore été consulté, mais pas encore consulté. Comme si demain, il suffirait que la tribu soit consultée pour que le projet puisse avancer comme il se doit. Cependant, on venait de leur rappeler à Société Générale que non seulement la tribu de Rouen est opposée au projet, mais également les 5 communautés locales, les 5 municipalités ont envoyé des lettres faisant entendre leur contestation, leur opposition au projet. Donc on a un peu l'impression que les banques françaises veulent absolument éviter le scandale du Dakota Access Pipeline, qui a notamment débuté parce que les tribus n'avaient pas été bien consultées, en s'assurant que là, dans les futurs projets, elles le soient. Cependant, une consultation n'a de valeur que si on prend en compte l'avis des populations. Or là, il est très clair, les populations locales, elles sont opposées aux 3 terminaux d'exportation.
On a parlé du gaz de schiste, du pétrole également, et entre 2005 et 2014, les banques françaises ont financé à hauteur de 30 milliards d'euros des projets de charbon, qui est l'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre. Que vont faire les banques françaises dans ce type de projet-là ?
Bon, d'abord, pour ne pas faire que critiquer les banques françaises, peut-être rappeler qu'elles ont toutes pris des engagements en matière d'arrêt de financement au secteur du charbon. C'est encore très loin d'être suffisant, puisqu'elles ne financent plus des projets directement, mais elles financent les entreprises qui les construisent. Or, on sait que la majorité des financements passent par du financement d'entreprises. C'est plus indirect, mais en réalité, c'est le gros des financements au secteur des énergies fossiles. C'est très peu via du financement de projets, et beaucoup via du financement d'entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'elles viennent faire dans ces secteurs-là ? Bah, tout simplement, ce sont des banques internationales extrêmement grosses. On a une économie qui est fondée sur les énergies fossiles. Donc, de fait, elles y sont exposées. Ce qu'on conteste aujourd'hui, c'est le fait qu'elles ne comptent pas tourner la page des énergies fossiles, alors qu'à la COP21, elles ont toutes pris des engagements en matière de respect de l'accord de Paris et de limiter le seuil de la température à 1,5 degré. Et donc, c'est vraiment ce double discours qu'on conteste aujourd'hui. C'est que d'un côté, elles s'engagent pour le climat, d'un côté, elles font valoir leurs engagements en faveur du respect des droits de l'homme, du climat, etc. Et de l'autre, elle continue de financer les secteurs des énergies fossiles, et notamment aux États-Unis se trouvent derrière les projets de terminaux d'exportation, les oléoducs de sable bitumineux, etc. etc.
Ces mêmes banques, vous en parlez, Lucie Pinson, se prétendent des nouvelles amies du climat, mais quelle réalité derrière cette stratégie marketing ? Nous allons en parler, vous restez avec nous, Lucie Pinson, on vous retrouve dans un instant, après le contestataire et très à propos, This Land is Your Land de Sharon Jones and the Dap Kings. Cette terre est votre terre en français, histoire de rester dans le thème. This land is your land. I'll tell you this.
made for you and me.
Nous parlons du lien entre les banques et les énergies fossiles sur la radio du Monde. Les banques, Lucie Pinson, se positionnent sur le créneau écologique et disent, pour certaines, investir dans les énergies renouvelables. Alors pourquoi ? Est-ce du greenwashing, comme on l'appelle, de l'éco-blanchiment d'argent ?
Non, les banques françaises investissent dans les énergies renouvelables. Pas assez, ça c'est une certitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est super rentable. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles sont compétitives avec les énergies fossiles dans la plupart des pays. C'est les marchés de demain. Et donc, les banques y voient un marché comme un autre. Ce qu'on conteste aux Amis de la Terre, c'est ce double discours, le fait qu'elles mettent en avant leur engagement dans les énergies renouvelables sans pour autant arrêter de financer les énergies fossiles. Or, le climat, c'est pas un jeu à somme nulle. Donc, augmenter les financements aux renouvelables sans pour autant réduire les fossiles, ça ne résout en rien la crise climatique.
Et pour l'instant, ces investissements des banques semblent rentables, mais quand ces énergies fossiles se raréfieront, et c'est certainement ce qui les attend puisqu'elles ne sont pas inépuisables, elles deviendront plus chères. Certains évoquent le risque d'une bulle carbone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que pour vous, ce risque est réel ?
Bon, alors en effet, il y a un risque. Plus il y aura d'investissements dans des projets, dans des secteurs dont on doit sortir, qu'on ne peut pas exploiter, etc. Et plus on prend le risque que le tournant sera brutal, puisque un jour, il va falloir vraiment réaliser qu'on ne peut plus extraire d'énergie fossile, on ne peut plus brûler d'énergie fossile, et donc on devra tout arrêter d'un coup. Et donc là, à ce moment-là, en effet, il y a un risque que tout l'argent aujourd'hui qui est placé dans ces secteurs ne soit plus rentable. Pour les banques françaises, notamment pour faire rester sur les États-Unis, les projets dans lesquels elles sont impliquées aujourd'hui, les terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié, il y en a plus d'une soixantaine en Amérique du Nord, et tous les analystes financiers disent dès à présent que la grosse majorité de ces projets-là sont en bonne voie pour devenir des actifs bloqués, des stranded assets. Ce qui est inquiétant, c'est que les banques aujourd'hui, elles ont l'impression de financer, enfin c'est ce qu'elles mettent en avant en tout cas, des projets qui sont compatibles avec la transition écologique, notamment Société Générale, sur une page de leur site internet dédiée à ses engagements sur le climat. On a un petit paragraphe sur les énergies renouvelables, et c'est dans ce paragraphe sur les énergies renouvelables que l'on trouve le GNL, le gaz naturel liquéfié.
Donc le gaz de schiste.
Voilà, dans le cas des terminaux aux États-Unis, c'est du gaz de schiste qui est derrière, et c'est un projet qui a une intensité carbone extrêmement forte, puisqu'on parle de process et de transport très lourd, et donc
considérer comme une énergie renouvelable.
Voilà, une énergie produite au final, l'électricité produite à partir de ce gaz-là, qui a été liquéfié puis regazifié, elle a un poids carbone extrêmement lourd. Et donc là, il faut vraiment que les banques se réveillent, qu'elles réalisent que non, ce n'est pas la direction dans laquelle il faut aller. En réalité, c'est tous les financements aux projets fossiles qu'il faut arrêter dès maintenant, en commençant par les non conventionnels, et reporter ces financements-là vers les énergies renouvelables, sans passer bien entendu par la case fausse solution, tout le nucléaire, les grands barrages, les agrocarburants.
Et comment convaincre ces banques alors de se désinvestir de ce type de projet d'énergie fossile ? Quel rôle peut-on jouer, nous, en tant que consommateurs, puisqu'il s'agit de notre argent qui est investi dans ce type de projet ?
Nous, on soulève tous les leviers possibles aux Amis de la Terre, donc on les rencontre, on discute. Lorsque c'est plus possible ou que ça n'avance pas, on devient public. Donc le but est vraiment de faire de ce qu'on appelle en anglais du name and shaming, donc montrer que derrière leurs beaux engagements se trouve une réalité plutôt noire, avec des impacts lourds. On assiste à leur assemblée générale. Donc là, cette année, on y était avec des populations venues des États-Unis pour montrer à ces banques qu'il y a des hommes et des femmes qui paient le prix lourd de leurs activités, et également essayer de convaincre les clients, les gens qui travaillent même dans la banque, les actionnaires également, pour qu'ils fassent remonter nos demandes à la direction, et puis les clients bien entendu. Et en France, on a la chance d'avoir des banques éthiques, et notamment une qui s'appelle la NEF, qui elle a fait le choix de ne pas financer les énergies fossiles ni le nucléaire, et qui est totalement transparente sur l'usage fait de notre argent.
Une banque coopérative française dont on a parlé dans une précédente émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne espoir, Lucie Pinson ? On sait que la transition énergétique que l'on attend ne se fera pas sans le soutien des banques et puis plus largement des grands investisseurs de la planète.
Alors, ce qui me rend optimiste, c'est que depuis 2015, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience au niveau de la société. De plus en plus de gens changent leur habitude, deviennent actifs aussi. Lorsqu'on organise des mobilisations, de plus en plus de personnes les soutiennent, que ce soit dans la rue ou via d'autres types de soutien qui sont moins visibles. Également aux États-Unis, donc le Dakota Access Pipeline est, on va dire, un semi-échec, puisque le projet ne sera pas arrêté. Cependant, il a permis une prise de conscience aux États-Unis et au niveau international qui est vraiment immense. Il a permis d'aider les différentes luttes à construire des ponts entre les luttes contre les énergies fossiles, contre le racisme environnemental. On en a entendu parler également dans le reportage. Et tous ces ponts-là, toutes ces mobilisations qui grossissent, sont des choses de gagner pour les batailles de demain.
Le grand virage du monde financier vers les énergies propres renouvelables n'est pas pour demain, peut-être pour après-demain, mais le débat aura le mérite d'avoir été ouvert. Merci Lucie Pinson d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron à la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, nous partirons en Sicile où se tiennent d'autres luttes, celles d'agriculteurs fatigués d'avoir à affronter la grande distribution et ses prix bas. Ils se tournent vers le circuit court, c'est-à-dire la vente directe sans intermédiaire, dans l'espoir de vivre dignement enfin de leur métier. À demain, même planète, même heure.